Bonjour à tous, bienvenue, enchanté de vous retrouver sur les ondes de Radio Campus Lille pour cette nouvelle saison radiophonique du magazine de la moto. Tous les dimanches à partir de 11h, je vous rappelle que vous pouvez aussi nous écouter sur le www.campuslille.com. Au sommaire de cette première émission, nous allons parler bande dessinée avec notre cher et tendre motarde en or. Patricia, bonjour.
Bonjour à tous. Effectivement, nous allons pouvoir passer un excellent moment en compagnie de Marc Coduardo, le scénariste, et Franck Margerin, le dessinateur, dernier tome de la série Je veux une Harley, qui est paru le 19 septembre dernier, et qu'on peut se procurer pour la modique somme de un petit peu moins de 12 euros, et elle vous permettra de passer un excellent moment.
Voilà, et c'est donc le troisième tome est consacré à la route 66, je pense, voilà. Patricia. Et ben, écoute, on a deux invités aujourd'hui dans les studios. Hein. C'est donc DJ Carlier et Richard Gorillo. Bonjour messieurs.
Bonjour.
Vous avez roulé sur cette fameuse route 66 cet été. C'était au mois d'août ou mois de juillet, je ne sais plus.
Mois de juillet.
Voilà.
Mois de juillet.
Hein, vous avez mis vos roues, enfin les roues des Harley. Vous avez loué des Harley Davidson là-bas.
On a loué des Harley. On était quatre bécanes. Voilà. Et on s'est éclaté sur cette route.
Donc vous avez fait une partie simplement de cette route 66, hein, parce qu'en fait, elle fait 3700 km de long, de Chicago jusqu'à San Francisco.
On a fait d'abord l'Ouest américain, on est redescendu par Flagstaff, et Flagstaff direction Los Angeles et Santa Monica, où on a le fameux panneau fin de la route 66.
Donc c'est impeccable, vous voyez, une BD, route 66, qui vient juste de sortir, c'est tome 3 de Franck Margerin. Et quel dessinateur de cette BD, vous l'avez acheté d'ailleurs?
Je l'ai acheté.
Et vous avez retrouvé des similitudes de ce que vous avez vécu dans cette BD?
On a retrouvé exactement tout ce qui
exactement.
S'est passé.
Exactement.
C'était terrible.
On a quelques belles scènes d'ailleurs. Ouais.
Comment?
On a quelques belles scènes.
Oui. Des photos, tout ça.
Des photos aussi.
À la radio, ça va être embêtant. Mais bon, on essaiera de les décrire par micro. Voilà. Notre troisième invité, c'est Pierre de Motor Legend, qui organise le premier Gentleman Rider, qui commencera à 14h aujourd'hui à Triomphe Lille.
Voilà, c'est le rendez-vous sur le parking.
Voilà, et la partie musicale de cette émission est forcément et toujours signée Laurent Rodier.
Ouais.
Filled with love. love that carries all before, a passion in the flood. I lie beneath the rainbow, now your tears have gone, and I'll sing my song for you, and I will carry on.
Voilà, c'est le retour du magazine de la moto sur Campus Lille. Nous avons au téléphone le scénariste de cette, du tome 3 de cette BD qui est consacrée à cette route 66, Patricia.
Ce volume, oui, est consacré à la découverte, à la conquête de l'Ouest, à la découverte effectivement de ce qu'il y a de plus mythique dans la route 66. Et bonjour Marc. Bonjour et merci d'être avec nous aujourd'hui. Sur Radio Campus Lille.
C'est un plaisir.
Tout d'abord, je voudrais saluer en toi le créateur de Parker et Badger, hein, qui m'ont valu de nombreux fous rires, difficiles à expliquer à ceux qui ne connaissent pas ces héros, mais que j'incite fortement à découvrir. Alors aujourd'hui, c'est pour parler également d'un super duo, en l'occurrence Marc Carré et Alain Calzone, son beau-frère, qui sont les protagonistes principaux de Je veux une Harley, des trois épisodes.
Oui.
Et là, tu as abandonné le dessin pour te consacrer au scénario.
Oui, en fait, j'avais fait plusieurs séries avant, et puis sur cette série-là, qui est née en fait d'une histoire enfin, qui m'est arrivée, c'est-à-dire que j'ai découvert le milieu biker assez tard, d'ailleurs, comme la plupart des gens qui roulent en Harley, et j'ai trouvé qu'il y avait quelque chose à raconter.
Et dans ce premier épisode, normalement, ça devait être, comme on dit, un one-shot. Il ne devait pas y avoir de suite. Elle a été vendue à 60 000 exemplaires, en fait. Hein,
Oui. Sur le premier tome a dépassé les 60 000 exemplaires. Ça a très bien marché. Et en fait, étant donné le succès de ce premier album, les lecteurs et l'éditeur également, mais ça on le comprend, nous a réclamé une suite.
Bien sûr. Donc, paru en 2012. Et donc, chaque année, on a la chance d'avoir un nouvel épisode de leurs aventures. Mais pour situer un petit peu, je dirais, le fil conducteur hein, entre ces différents albums, le premier tome, La vie est trop courte. En deux mots, comment tu le résumerais ?
C'est la découverte du milieu biker. J'ai fait un peu le tour de tout ce qui touche le milieu Harley. À partir de l'achat d'une moto jusqu'à rouler avec une Harley et tout ce qui gravite autour de ce milieu, qui est un milieu quand même assez riche et que je trouvais assez intéressant justement pour en faire un album.
Oui, effectivement, il y avait en quelque sorte un passage en revue, je dirais, des codes de l'usage motard. C'était un petit peu comment être un biker avec les grands stéréotypes du genre, parce que, comme tu as pu l'évoquer dans tes précédentes interviews, l'autodérision, c'est quelque chose que tu privilégies.
Oui, tout à fait. Moi, je ne concevais pas de faire une histoire autobiographique sans autodérision. Les Harley, j'adore. J'aime le milieu Harley, j'aime cette moto. Et en même temps, il y a des choses qui me font sourire. Un peu la posture qui va autour, la panoplie un petit peu. Il y a beaucoup de gens qui achètent une Harley Davidson pour se la jouer un petit peu rebelle, un peu bad boy. Mettre des patchs dans le dos, ce qu'on appelle des bananes, pour faire partie d'un club, et puis jouer au méchant. Dans l'album, je dis à un moment donné, le héros dit à sa femme, il faut que tu fasses la gueule, parce que sur une Harley, il faut être sérieux.
Ouais. Ah, il faut faire la gueule.
Mais il y a plein de choses vraiment très savoureuses. Et j'irais, après cette découverte, pas vraiment personnel, individuel, mais après, le deuxième tome, c'est Bienvenue au club. C'est-à-dire, effectivement, on vient voilà. Se raccrocher à ce désir d'appartenance à un groupe.
Voilà, c'est ça. C'est ce qui arrive dans le milieu motard en général. On aime bien rouler entre copains et puis, si possible, sous un club, sous une bannière. Voilà, c'est vraiment un petit peu comme des adultes qui font un peu mumuse, ça c'est vrai.
Oui.
Donc, et dans le milieu biker, en général, on essaie de se retrouver et de créer un club. Et c'est ce qui arrive dans cette histoire-là. Donc ça me permet de parler du club officiel de la marque, qui est le HOG, le Harley Owners Group, qui regroupe vraiment les gens qui achètent des Harley. Et on leur permet de participer, de faire partie du club vraiment de la marque. C'est un groupe qui est un peu contesté parce que on reproche à Harley d'inciter les gens à dépenser Harley, enfin de consommer du Harley. Et de l'autre côté, j'ai pris le groupe à l'autre extrême, c'est le groupe des 1%, ce qu'on appelle les 1%ers, comme les Hells Angels ou les Bandidos, qui sont des groupes vraiment de criminalisés, comme on peut en connaître aux États-Unis ou dans le nord de l'Europe. Bon, en France, ils sont quand même plutôt sages. Voilà, donc c'était un peu l'opposition des deux groupes. Il y a un des personnages qui rentre dans le HOG, qui est un club un peu BCBG, un peu UP, et l'autre qui veut faire partie des bad boys. Le club, c'est très important dans le milieu biker.
Oui, et en filigrane, il y a aussi toujours c'est les couples, parce que c'est aussi une affaire de famille. Les femmes sont présentes.
Oui, parce que c'est comme je le disais au début, c'est vraiment autobiographique. Les quatre personnages existent vraiment. Bon, Marc Carré, c'est moi. Tani, c'est mon épouse qui s'appelle Tani aussi. Enfin, c'est le diminutif de Nathalie. Et en face, il y a son beau-frère qui est Alain et la femme de son beau-frère qui est la sœur de Marc Carré, qui est ma sœur. Tous ces personnages-là existent. Alain, c'est quelqu'un qui m'a fait connaître le milieu Harley. Il a une Harley avant moi et c'est grâce à lui que j'ai découvert ce milieu. Et ces personnages existent vraiment. Et au travers de l'Harley Davidson, qui est le fil rouge, moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est de raconter des histoires de quinquagénaires et de couples. Et voilà, c'est pas seulement une bande dessinée sur les motos et sur les Harley, c'est aussi la vie de tous les jours, les rapports de couple de quinquagénaires.
Bien sûr, et comment les couples peuvent être confrontés avec plus ou moins de bonheur à cette caricature, je dirais en quelque sorte, des représentations motardes, hein, où les trois B, en tous les cas, du monde biker sont toujours fort présents. Bike, beer and beb, c'est ça? Beb, pas trop.
Ça.
Mais écoute,
j'ai droit à la bière, j'ai droit aux motos, mais j'ai pas droit aux bebs.
Voilà, et dans le tome 2, une Mylène qui s'affirme dans son malheur et qui évolue tellement sur le plan perso qu'elle reconquiert son volage de mari. Mais le tome 3 est plus serein à ce niveau. Mais si tu veux, on en parlera juste après la petite pause musicale qu'on va s'accorder. À tout de suite, Marc.
D'accord. À tout à l'heure.
Merci.
We'll be right back. hurt you. Never wanna kill you.
Allez, aujourd'hui on parle Harley Davidson, on parle Route 66, on parle USA, on parle enfin tout, les McDo hein, aussi avec le scénariste de cette troisième tome donc, qui est consacré justement à cette fameuse route et mythique 66.
Voilà, l'immense plaisir de retrouver à l'antenne Marc Quadrado, le scénariste de ce troisième tome de Je veux une Harley, La conquête de l'Ouest. Alors Marc, toujours fidèle à l'importance du vécu, de l'éprouver, tu es allé sur place avec Franck Margerin pour repérer, le cadre.
Oui, oui, c'est toujours dans le souci d'avoir une partie autobiographique dans cette série. On est parti avec Franck dans l'Ouest américain. On n'a pas fait la route 66 complètement, mais on a fait l'Ouest avec une partie de la route 66 pour voir un peu les événements, et moi pour prendre des idées, et Franck surtout pour prendre des photos et faire des croquis. Enfin voilà. Donc
voilà. Vous imprégnez de l'ambiance, éventuellement rapporter des anecdotes.
Oui, des anecdotes, on en a eu. Par exemple, à un moment donné, on s'est perdu. On a perdu la trace du groupe parce qu'on a démarré un peu trop tard d'un restaurant.
Oui.
Et puis on est parti dans l'autre direction, ce qui fait que ne voyant pas les autres du groupe devant nous, on a cru qu'ils étaient très loin, parce qu'en fait on était quand même un groupe qui roulait un peu trop vite, mais bon. J'ai accéléré et donc au bout d'un certain moment on s'est rendu compte qu'on s'était perdu. On a fait demi-tour et là on s'est pris une pluie, une énorme pluie, avec de la grêle, et on avait laissé nos tenues de pluie dans le camion.
Marc, je m'excuse, je vais faire une parenthèse, parce que Patricia, oui. Tu sais, elle parle beaucoup, et on aurait aussi te poser des questions.
Non, mais j'allais présenter nos invités.
On a deux invités dans les studios qui ont fait cette fameuse route 66, là, cet été, et en fait, ils ont acheté l'album, le tome 3, là.
Et même toute la série.
Et toute la série, d'ailleurs, et en fait, ce que vous racontez, eux, ils ont vécu les mêmes choses.
Oui, exactement les mêmes choses, c'est ça ils se sont complètement retrouvés dans l'album. C'est ça, Didier ?
Ouais, exactement. Ouais. Tu parles d'une belle rage sur la route. On a eu la même chose. Toutes tes petites aventures, là, on s'est reconnus dedans. Exactement.
Donc, c'est vrai que c'était avec une grande justesse que tout ça a été rapporté, mis en image. Et de façon, je trouve, tellement sympathique, humaine, avec beaucoup d'empathie, en fait, pour tes héros.
Ah oui, complètement, oui, parce que ce sont les héros, ce sont eux qui priment, donc c'est d'abord une histoire d'homme, et après le reste, en fait, tout simplement.
Mais moi, je veux dire que j'ai vraiment apprécié cette façon de dresser un petit peu les travers d'une certaine consommation moutarde, hein, comme je disais, avec sympathie, et c'est une façon souligner cette forte adhésion à ce qui pourrait être qualifié des dogmes d'une nouvelle religion, celle de la moto, qui est plutôt que religion en fait une passion, hein, une passion que l'on partage tous d'une manière ou d'une autre. Mais comme tout nouveau converti, Marc Carême met beaucoup d'enthousiasme à faire partager sa passion. Et je dois dire que chacun peut se retrouver, comme le soulignait Didier. Richard ne va pas me contredire non plus, Richard.
Ah non, pas du tout, non. Il y a une scène tout à l'heure sur la BD qu'on a vue aussi. C'est le gars qui arrive à la station-service et qui tombe avec la moto juste à la station-service. Ça, ça nous est arrivé aussi.
Ah, c'est les boules, ça.
Il y en a un qui est passé. Ouais, c'est les boules, ouais.
Ou ne pas, si on se réfère au premier tome, ne pas saluer une 125. Ça vous est passé par la tête ou pas? La solidarité motarde, elle joue quelle que soit la cylindrée, et c'est ça qui est sympathique. Voilà, ben, Marc, on souhaite un immense succès à ce troisième volume de la série. Donc tu ne peux pas savoir s'il y en aura un quatrième, tout dépend des coups de cœur à venir.
Oui, bah, comme maintenant c'est parti pour une série et que le public est au rendez-vous, moi je réfléchis à un quatrième tome. Maintenant, il va falloir concilier ça un peu avec nos autres projets, ceux de Franck et de moi. Mais en tout cas, un quatrième tome verra le jour. Je suis pas sûr qu'il arrive dans un an pile poil, mais en tout cas, il est en gestation, ça c'est sûr.
Bah écoute, par contre, se souhaite de très très belles aventures à moto, de quoi pouvoir te donner l'inspiration pour un quatrième volume qu'on attend avec impatience.
Merci beaucoup, et puis je salue vos invités sur le plateau également, et puis voilà, je vous dis à une prochaine fois alors.
Ah bah je l'espère bien.
Merci.
À très bientôt, au revoir.
Au revoir.
Et voilà, aujourd'hui on roule sur cette mythique Route 66 avec le dessinateur du tome 3, Route 66.
Oui, bonjour Franck Margerin, bonjour. Dessinateur de Je veux une Harley. Merci à toi, très sincèrement, de nous accorder un peu de temps, parce que je sais qu'aujourd'hui, je c'est particulier. Donc, on va plus te présenter, après Ricky, Lucien, Manu, Momo, etc. Les héros de tes albums. Depuis 2012, oui. C'est Marc qui tient la vedette de l'actualité, avec cette troisième aventure. Et oui. Je vais commencer par une boutade, Si tu veux bien, Franck. As-tu eu du plaisir à dessiner les Harley?
Oui, bien sûr. Oui. Non, mais les Harley et puis toutes sortes de motos, j'adore dessiner des motos. Sûr.
Mais voilà, tu as eu le bonheur de parcourir la route 66, non, des tronçons de route 66, en tous les cas, le périple que vous avez fait aux États-Unis, Marc et toi. C'était au guidon d'une Electra Glide?
Oui. Un énorme machin. C'est pas du tout ma tasse de thé, ce genre de moto, mais il faut reconnaître que là-bas, c'était vraiment la moto idéale.
Oui,
on en avait qu'une pour deux, donc j'étais souvent passager. Et derrière, c'est carrément un canapé, quoi. Un canapé, voilà. Derrière.
Alors, pour te citer, un vrai paquebot maniable comme une enclume. Mais quel confort! C'est bien ça? Tu redis pas tes paroles? On te les a pas attribuées, c'est bien ça?
Je sais pas, mais en tout cas, quand j'avais ce truc-là entre les pattes, j'étais pas toujours très fier pour les petites manœuvres. Ouais. À l'arrière.
Ça devait. Alors, on va prendre le temps et j'irai le bonheur de parler de Margerin Motard par rapport à ta 500 XC.
Oui, que j'ai toujours.
Ouais, voilà, et qui est ta compagne quotidienne, donc apparemment.
Alors, non, j'ai fait des infidélités.
Ah,
oh,
zut.
Ah oui, mais la XC, elle est vraiment, c'est une moto que j'adore, mais faut la démarrer au kick, et il y a des fois, elle est très, très capricieuse.
Ah, bah oui, ça.
Alors, quand j'ai fait 30 tentatives et qu'elle ne veut pas démarrer, bah, j'appuie sur le bouton de la BM et ça part.
Oui, parce que t'es plus BM, toi, hein.
Elle j'aime beaucoup. En fait, c'était une moto que j'ai testée une fois, mais les années ont passé. Et ce qui était une moto de flic est devenu maintenant une espèce de moto vintage incassable. Et c'est en plus un rayon de braquage vraiment minimaliste. Et je me suis fait quelques fois des glissades. Et c'est vrai qu'on est content quand on n'a pas la moto sur les genoux. Non, c'est avec les culasses, on peut la relever facilement.
Ah oui,
ça protège,
oui.
Les jambes. Ça a beaucoup d'avantages. Hein.
Mais tu as persévéré avec ta caractérielle, BSA 500A7, c'est
alors,
ça?
Oui, j'ai toujours ma BSA 500A7. C'est une moto sans problème. J'ai jamais vraiment eu à m'en plaindre. Par contre, j'ai une bonne ville de 68 que j'adore, qui est magnifique. Mais celle-là, elle me fait chier royalement à chaque fois que je sors. Il y a toujours un petit truc qui ne va pas. Mais
c'est normal.
Bah oui, c'est un enfant gâté, un peu capricieux.
Et toujours la Triumph aussi, Speed Twin?
Non, la Triumph Speed Twin, je l'ai vendue un jour.
Oh.
J'avais un bon copain qui l'a reluqué depuis des années. J'ai dit, bon, allez, d'accord.
Ah oui, oui, tu savais pas où elle partait.
Oui, je la vois de temps en temps. Bon, mais c'est vrai que c'était aussi une moto quand même un peu compliquée pour tous les jours. C'est des vieilles motos. Et finalement, je me rends compte que les motos anciennes, c'est super joli, mais on les sort une fois par an. Chaque fois, il faut racheter une batterie.
Oui, t'as tout compris.
C'est compliqué.
Et donc, parmi tes passions, il y a aussi la musique. Donc nous, on a craqué. Hein. En l'occurrence, je suis allée te découvrir dans ton interprétation de « Tu dis que tu l'aimes hein ». Les Dennis Twist.
Je vais quand même remettre les choses à leur place, parce que ce titre « Tu dis que tu l'aimes » qui nous a valu un certain succès à une époque, mm-hmm. Moi, j'étais même pas là le jour où ils l'ont enregistré. Toi.
Ah, d'accord. Ah, parce que moi, j'ai cherché, je me disais « Mais il est où
?» Non, je suis même pas dans les cœurs. D'ailleurs, quand ils ont fait le clip, j'apparais quelques secondes, mais faut pas cligner des yeux à ce moment-là.
Oui, j'ai essayé. Hein. J'allais lancer un jeu justement qui allait trouver Franck Margerin sur YouTube.
Je ne connais pas parce que c'était il y a 25 ans et j'ai quand même un peu changé.
Oui. Mais je vais inciter quand même nos auditeurs à aller découvrir découvrir le titre sur YouTube.
Ça fait des amis. En tout cas, ça rappellera des souvenirs à certains, quoi, ceux qui ont un certain âge.
Ben oui, et là tu es à un super festival en fait.
Je suis dans un salon du disque et de la bande dessinée à Perpignan. Et je suis dans la rue, là je suis en train de me diriger vers le festival.
D'accord. Bah écoute, en tous les cas, on va te dire, te souhaiter un excellent dimanche. On va juste t'accompagner un petit peu pendant le temps que tu marches avec le titre de Hungrier de Bruce Springsteen. Ça te rappellera des souvenirs alors?
Oui, j'aime beaucoup.
Oui, et puis au niveau aspiration, je crois qu'on va juste avoir une idée de ce que ça peut donner. Tu dis que tu l'aimes. Mais il faut rappeler quand même, hein, c'est un titre qui a été 10e au top 50 en 87-88.
On a vendu 300 047 tours, ça paraît incroyable pour un groupe totalement amateur qui a fait ça pour rigoler. Voilà, c'est comme ça. Tous nos copains qui étaient musiciens à l'époque étaient furieux. Ils ont détesté pendant un certain temps.
Mais c'est une référence des années 80, en tous les cas.
Bah voilà, on est dans certaines compiles des années 80, d'ailleurs.
Oui, bah, un grand, grand merci, Franck. Et puis, un excellent succès à ce troisième volume de Je veux une Harley. En attendant le quatrième. Au revoir.
Merci, à bientôt.
Au revoir. Oui, à bientôt.
Allez, on roule aujourd'hui sur cette fameuse route 66, mythique route 66. Enfin, il faut s'imaginer, on est au guidon d'une grosse, grosse Harley. C'est ce que vous avez fait, DJ Richard.
Oui, c'est ça. Ouais. Donc, c'était au mois de juillet. On est arrivé à San Francisco et puis on a tout de suite loué les motos. Là. On les avait d'ailleurs réservées depuis septembre. Et puis, ce sont des Electra Glide.
D'accord. Mais quelle idée de vouloir aller rouler sur cette route. Parce que quand on regarde l'histoire et même sur les forums, il n'y a plus rien sur cette route. Hein. D'ailleurs, même au début, à partir de Chicago, là, sur 1000 km, c'est apparemment très triste. Il n'y a rien à voir.
On s'est renseigné d'abord, savoir ce qu'on allait faire sur là-bas aux États-Unis. Et on a appris que la route 66, toute la première partie était pas terrible. C'est l'usine, les routes ont été supprimées, les autoroutes sont passées au-dessus de la route 66. Donc on a décidé de faire le Grand Ouest américain avec les grands parcs et redescendre par la partie qui a été remise un petit peu au goût du jour et puis remise avec un peu de vie par l'intermédiaire d'un fameux ancien barbier Delgado qui a essayé de remettre en place quelques petits commerces, etc., sur quelques petites villes, sur les 800 derniers kilomètres.
Je propose de refaire un petit peu une histoire de cette route. Hein, pourquoi on en parle de cette route, hein, parce que c'est une route qui traverse d'est en ouest toute l'Amérique, tous les USA, de Chicago jusqu'à Santa Fe, en Californie. C'est donc qui fait 3670 km. Mais ça a varié, hein, parce qu'il y a eu des détours, il y a pas mal de choses qui ont changé. Et donc, c'est en 1926 qu'on décide de construire cette route. Et au début, il y a une partie, il y a du goudron, il y a du bitume. Par contre, après, c'est de la terre. Ça servait pour les pionniers quand il y a eu la Grande Dépression en 1936. Donc, dans le nord, les gens sont partis dans le sud, donc en Californie. Cette route a été finalement déclassée en 85, parce que là on a construit des autoroutes, des highways ou interstates. Mmh. Et puis c'était une route où il y avait plein de commerces. Il y avait plein d'hôtels, magasins, parce que c'était la seule route pour rejoindre l'Est à l'Ouest. Et donc, une fois que l'autoroute a été construite, malheureusement, les gens qui avaient tous ces commerces ont un peu été un peu tristes, parce qu'effectivement, ça a fait le vide sur cette route.
On voit beaucoup de secteurs très, très tristes avec des panneaux maisons saisies.
Alors, est-ce que c'est l'Amérique profonde encore, la route 66, où on retrouve des gens qui sont en rocking chair sur le
Oui, parce que tu retrouves
devant de leur maison avec le drapeau américain un peu, non?
Alors des drapeaux américains,
c'est normal, ils sont en Amérique.
Mais t'es quand même sur une route encore assez touristique où les motards viennent et puis ils nous attendent. Donc il y a les commerces, il y a le petit bistrot, il y a les petits restos, etc., avec une ambiance super sympathique.
Alors les Américains l'appellent, au début ils l'appelaient la Mother Road, la mère de la route de l'Amérique.
Ouais. Mmh.
Voilà. Et il a fallu 12 ans pour la faire, vous imaginez un peu, à l'époque.
Ouais, 12 ans, elle pas si fameuse que ça. Hein. il faut avoir de bonnes suspensions.
vous auriez pu faire la National 7 finalement.
On l'a fait aussi.
Ouais,
on l'a
fait aussi. C'est un peu moins long, mais c'était quand même à l'origine, quand il n'y avait pas cette fameuse autoroute là, donc sur qui passait côté de Lyon, tout ça. Et c'était faire ça aussi.
On a fait un entraînement l'année passée au mois de juin sur la National 7.
D'accord. Ah, vous avez fait l'entraînement, puis après vous êtes parti.
On est parti d'autre côté.
Une semaine d'échauffement, voilà. Et ensuite. On est
Patricia.
Non, j'étais sensible à ce que disait Didier sur effectivement le côté tourisme tour. Et tout le charme que ça peut avoir, mais aussi l'importance de la récession aux États-Unis, parce que à côté de ça, il y a cette réalité comme tu disais, de maisons à vendre, de choses qui se détériorent énormément par manque d'entretien, parce que il y a une vraie crise économique.
T'as de belles vitrines, voilà. Et après derrière, t'as vraiment des maisons qui sont très très tristes.
Voilà.
Thank you.
Alors, on prend les bonnes habitudes. Une petite info, Christine.
Oui, une petite info. Donc, des balades, puisqu'il fait beau. Donc, on va aller faire quelques balades. Donc, je vous propose la balade moto pour le Téléthon à Rovarendin, qui est une balade de 90 à 100 km. Donc, le 5 octobre... Donc organisé par les amis motards. Donc vous pouvez retrouver donc cette information sur Facebook et sur notre calendrier page 37.
Bon, nous repart directement sur cette fameuse et mythique route 66. Je vais poser des... qu'est-ce qu'on ressent dès qu'on fait 500 mètres sur on est au glis... ouais, on est allé chez le loueur d'Harley Davidson et puis hop, on a pris les commandes. Et là, on part. Alors,
tu sors,
vous avez fait
dis,
500 mètres.
Tu dis, ça y est, on y est. Au premier feu rouge, tout le monde se regarde.
Dites-nous un petit peu.
Alors déjà, il faut prendre des...
Vous avez des sensations, aussi. Vous... Voilà, hein.
Déjà, il faut prendre des traglagnes en main, déjà.
Oui, donc c'est, vous avez pris la grosse, hein, voilà. Pas du sportseur, hein, du 1800.
Voilà, ouais, du gros.
Du 450 kilos.
Oui, voilà.
Alors, on va parler en kilos.
Une enclume à maîtriser, tout à l'heure.
Vous étiez 4 sur cette partie.
Voilà, ouais.
Donc, premier feu rouge, tu t'arrêtes, tu te regardes dans les yeux, tu dis ça y est, on est sur les motos, c'est formidable.
Voilà, alors déjà les feux, il faut s'habituer, hein, parce que les feux, le feu, il est pas de côté, il est de l'autre côté.
Là, ouais, ouais.
Donc il faut pas s'arrêter en plein milieu du carrefour.
Exactement. Ouais. Et là, tu te dis, on fait attention à tout ça. Tu avances un peu et ensuite tu rentres dans San Francisco et là, tu tapes les.
Alors San Francisco, grosse ville, oui.
Les super montées.
Oui, alors.
Et les démarrages en côte.
Alors
avec
ça fait quoi 450
kilos.
C'est des trucs qu'on voit dans les films, ça. Mais une fois qu'on y est, alors on ressent quoi?
Eh ben, tu ressens ce que tu ressentirais si t'avais la guitare de Jimi Hendrix dans les mains et tu
ça.
Dis
oh, voilà, ah, ça y est, voilà, j'y suis.
C'est
ça.
Voilà, c'est ça,
d'accord.
Exactement.
Ouais.
Non, alors, c'est un régal. On a vu ça dans tel film. On a vu.
Oui, voilà, c'est ça. Les images.
C'est marquant. Puis t'attends ça depuis 3-4 ans et tu te dis ça y est, t'es dessus.
Oui, parce que vous avez quand même économisé hein, pour faire cette
on
petite
économisé,
balade.
On pouvait pas faire le chèque comme ça directement.
Ça représente une paire de 1000 euros. Hein.
Ça fait un beau petit budget, surtout la location de la moto.
Ouais, plus location de la moto.
Ouais.
Effectivement, faire la route 66 en voiture, ça aurait été un peu moins fun.
Ouais, bah oui, attends, on roule quand même.
Vous étiez à 4 dans une voiture, mais on
aussi,
peut
donc
se partager le budget, tu vas me dire. Mais bon.
Voilà, ouais.
Ouais, ouais. Voilà, ouais, mais bon, non, il fallait la faire en Harley.
Je comprends pas bien qu'il fallait. Tu vois, on pouvait faire en Goldwyn aussi, si tu veux.
Oui, aussi, ouais, ça se loue aussi.
Mais on est fan de Harley. Donc,
mais voilà, vous roulez en Harley. Et donc, après, on commence à traverser des petits. On sort de la grande ville, Chicago, là. On traverse des petits villages. Je sais pas si on appelle ça des petits villages là-bas.
Non, nous, on n'est peut-être pas côté Chicago.
C'est côté.
Nous, on n'est pas. San Francisco.
San Francisco, ouais.
San Francisco, les grands parcs. Donc, Yosemite. On est passé par Las Vegas, Bryce Canyon, Monument de Valley. Le Grand Canyon et ensuite on est redescendu sur la route 66 pour reprendre la meilleure partie de la route 66 pour revenir sur Los Angeles et remonter par la côte ouest pour repartir sur San Francisco.
Donc on traverse forcément des petits villages qui sont un peu abandonnés hein, parce qu'on l'a dit cette route a été abandonnée en 1986 je crois parce que bon ils ont construit des grandes autoroutes et puis forcément maintenant on prend plus cette route et en fait il y avait une association hein, qui essaye de refaire revivre cette route
surtout sur c'est la ville de Seligman où on a une petite association là qui a essayé de relancer la vie de cette route donc passage obligé pour aller visiter quoi pour regarder 4 ou 5 petites villes super sympathiques, décorées. Les gens nous attendent. On arrive en moto.
Oui, une question, tu sais qu'une partie du film Easy Rider a été tournée sur cette route 66. Même une bonne partie, je crois que le film a été tourné sur cette route. Mais ça finit mal pour l'un des motards, même pour les deux, je crois, ça finit mal.
Nous, ça s'est bien terminé.
Mais vous, ça s'est bien terminé. Non, mais ils sont accueillants quand même dans ces petits villages. Ils vous attendent pas avec le fusil à pompe.
Non, non, t'es pas dans Délivrance ni quoi que ce soit. Il n'y a pas de souci parce qu'on est passé à côté du Colorado. Mais ça a été.
Tu sais,
tout s'est bien passé.
Non, non, c'est pour ceux qui voudraient y aller l'année prochaine.
Non, on est super bien accueillis. Tu vas dans n'importe quel petit resto, petit motel, les commerces.
Alors justement, c'est comment les petits restos? Ils sont comme d'époque avec les enseignes d'époque.
Il y a du typique et puis il y a du moderne aussi, quoi. C'est clair. Mais bon, on visait aussi surtout le typique aussi. Ouais, c'est plus amusant aussi. C'est, il faut,
oui, bien sûr,
on n'est pas allé là-bas pour
éviter les McDo.
Oui, donc vous aviez prévu l'hôtel, tout ça, sur la route.
Ouais, tous les motels étaient réservés aussi.
Ouais. Les motels, ouais. Donc les motels, c'est pareil, c'est un peu genre bac de café ou un truc comme ça, non?
Ouais, t'as le motel où tu tires ta chambre au sort et tu rentres dans ta chambre. Alors t'as le thème.
Ah, on tire ça chambre au sort.
John Wayne, l'autre.
John Wayne, ouais.
C'est tous des thèmes comme ça. Bon, c'est assez folklorique, assez sympathique. Et ça te fait passer un bon moment, quoi. C'est excellent.
La DJ, c'est de l'Arlais. Hein,
c'est de l'Arlais, j'ai entendu. C'est ambitieux.
On est cherché ça vite fait durant le morceau de musique là, pour mettre juste après, pour reprendre la parole. Bon, donc on repart sur cette fameuse route 66. Qu'est-ce qui vous a. Vous n'avez pas fait que ça hein, en Amérique. Qu'est-ce qui vous a vraiment le plus intéressé, marqué?
Le plus marquant,
c'est. Ce qu'il y a de plus beau finalement.
Monument de Vallée. tu es sur cette grande route toute droite avec Monument de Vallée au bout, là, et tu dis, ouais, t'es dans le film, t'es dans les westerns. C'est le côté impressionnant. C'est. Ouais, les cow-boys, les indiens, les westerns de notre époque, et c'est un décor magnifique. Ça, Antelope Canyon, des rochers d'exception avec des couleurs magnifiques, tu rentres dans une faille et tu découvres un décor féerique, quoi.
C'est, d'accord.
Bon, c'est des choses marquantes.
Et pour revenir à cette route 66, si on veut la faire, parce que maintenant il reste que des tronçons, c'est coupé, ouais. Hein, les endroits où on peut pas rouler. Quel côté il faut faire, le
côté
l'ouest, l'ouest,
côté
parce
ouest.
Qu'apparemment côté est, c'est
il y a rien, c'est l'usine,
c'est industriel,
c'est que des usines.
Quand on regarde un peu le parcours sur des forums.
Alors tu prends Flagstaff jusqu'à Victorville, et là t'as quelque chose de en état propre, accueillant, touristique, bien sympathique, avec des routes en bon état. Et là, tu es sur la moto et tu prends ton pied.
Du côté de Santa Fe, alors peut-être.
Alors,
non.
Santa Fe, tu arrives à Santa Fe, c'est le panneau de fin de route 66. Là, bon, tu arrives et tu dis, bon, le voyage est bientôt fait.
C'est amusé, ces routes, hein, parce que j'ai vu des photos, ils ont conservé les panneaux des années 30.
Ouais, hein, conservé,
c'est carrément le.
T'as encore des vieilles carcasses de voitures, oui. les vieux camions de pompiers,
les pick-up, les V6, V8, V12.
Ça t'en croise à tous les coins de rue.
Ouais, encore. Bon.
Des
sur la route 66.
Des Shelby, etc. Ouais. T'en vois à tous les coins de rue. C'est la Twingo des États-Unis.
Ah oui, mais ils ont beaucoup. C'est pas cher l'essence.
L'essence est beaucoup moins cher. Tu peux consommer.
Donc effectivement cette route c'est le musée, donc on est impressionné quand on regarde un petit peu tous les
tu rentres dans chaque commerce.
Je suppose qu'il y a encore quand vous rentrez dans un bar, il y a encore le disque au moins une pièce, et puis non.
Ouais les vieux jukebox.
Non, je suppose qu'il y a encore ça, non.
Tu vois encore ça dans un coin un petit peu poussiéreux.
Ouais.
Tout n'est pas dans cet état-là. Après t'as des trucs des petits restos qui sont modernes mais qui essaient de retrouver l'ambiance des années 60. Qui se donne le genre, la tenue vestimentaire, etc. Et les musiques qui passent à l'intérieur, les menus, tout est fait années 60. Et bon, tu changes d'époque.
Tu manges des haricots, tout ça.
Voilà.
Du
chili.
Du chili.
Souvenir aussi, le chili.
Bah oui, pourquoi?
On n'ira pas plus loin.
Non, bah d'accord, on va arrêter, on va pas aller loin parce que vous voyez, c'est un peu serré. Là. Bon, est-ce que vous avez rencontré beaucoup de motards sur cette route? Ou les Américains, ils la pratiquent ou pas?
Non,
ou c'est simplement un truc.
C'est
simplement un truc pour les étrangers.
Non, on pensait voir énormément de motos et on a été assez surpris de voir. Il n'y avait pas tant de motards que ça sur la route. Et on était souvent seuls sur cette route et avec les super gros camions américains de chaque côté et les super gros pick-up énormes, mais pas tant de motos que ça. On s'attendait à en voir beaucoup plus.
Oui, c'est cher, hein. C'est parce que pour nous Européens, c'est combien un voyage comme ça,
dans les 8 à 9 000 euros.
Ah,
tu comptes simplement 2 700 euros de moto, de location.
Donc ça fait, tu pars pas en vacances pendant 5 ans et tu peux te payer petit voyage. Pas intérêt à te louper. Hein,
si c'est pour deux aussi.
Oui, c'est pour deux, bien sûr.
Par coup, Non, tu te loupes pas. Une grève d'avion là, avec un pilote un petit peu trop exigeant.
Bon, d'accord.
Là, tu lui sors dessus. Là.
Voilà, donc on va conclure. En fait, on l'a pas annoncé au début de l'émission, mais c'est la surprise. L'émission, on prend une demi-heure de plus maintenant. C'est 11h.
Je pensais que tu allais nous payer
30.
La moitié du voyage.
Non. Donc vous êtes encore avec nous pour une demi-heure. Vous êtes content,
hein? Non, pas de
problème. Non,
on va
rester. Voilà.
Ça va aller. On va accepter.
Après le maximum, tu nous diras un peu par expérience, c'est ce qu'il faut faire, pas faire, pour donner un peu des idées à des gens qui voudraient refaire aussi cette route 66.
Il n'y a pas de problème.
Voilà, c'est la surprise pour cette saison 2014-2015, saison radiophonique. Eh bien, kick un coup maintenant, le magazine de la moto, c'est une demi-heure de plus, c'est 11h, midi et demi. Très bien. Avant de parler, Richard, DJ, de revenir sur cette Tour 66, ça a inspiré pas mal d'auteurs, Christine.
Oui, au niveau de la littérature, on peut donc parler d'un livre de John Steinbeck, c'est Les raisins de la colère, donc qui a été aussi un film et qui met justement en avant toute la vie difficile des ouvriers et des fermiers de l'Ouest américain pendant la Grande Dépression, qui, pour fuir la pauvreté, vont s'exiler. Et un autre livre aussi très important, c'est le livre de Jacques Kerouac, Sur la route, On the Road. Et donc lui, il a permis à un mouvement de mettre en lumière l'Amérique populaire qui borde la route 66. Donc à lire ou à revoir au cinéma.
Vous saviez, non ?
Oui,
sur le bout des doigts.
On a tout lu.
Attendez, ça inspire aussi des réalisateurs de films. Hein. Bon, je vais vous parler de Zirador qui a été tourné sous cette route. Hein. Je sais pas si vous vous souvenez, Thelma et Louise, un road movie qui finit très mal pour les deux. Voilà. Et il y a eu d'autres. Black Café aussi. Donc c'est une route qui inspire et qui, en fait, bien servi de décor pour ce genre de film.
On est passé par Baguette.
Vous êtes passé par là, mais vous êtes fantastique. Ouais, écoutez, incroyable.
On est même rentré.
Bon,
dedans.
Alors maintenant, on va conclure un peu là pour cette histoire. Fort de votre expérience, que faut-il faire ou pas faire surtout là-bas sur cette route 66 ?
Alors
on parlait de flotte là.
Ah, il faut.
Il faut avoir
de la flotte. Une glacière.
Une glacière sur le porte-bagages.
Non, il faut une glacière souple.
C'est con, ça dénote sur une Harley.
Tu caches ça dans la sacoche.
Ah, tu la caches.
Voilà, exactement. T'as de la glace dans tous les motels, donc tu as rempli de glace.
Parce qu'il fait quelle température, dites-nous.
L'été, 45 degrés.
45 degrés.
45
donc
degrés.
L'histoire, c'est vous êtes arrêté sur un chantier parce qu'il y avait des travaux. Il y a un type qui vient vous voir. Là.
Le gars t'arrête en plein milieu sur l'autoroute. T'es arrêté au milieu de nulle part. Et puis, il y a un gars orange devant toi qui dit stop.
Il veut de l'eau.
Il fait 45 degrés, t'es arrêté, les 4 motos sont arrêtées. Et dans la minute qui suit, il y a une camionnette qui vient et qui vient te proposer de l'eau.
Ah oui,
si t'es pas équipé,
c'est pour vous.
Pour dire de.
Plus pour les motards, on va dire que dans les voitures sont équipées de climatisation. Donc
On roule comment
là passer.
En cuir ?
Non, tu peux pas.
Vous avez roulé comment ?
C'est pas sérieux, mais tu roules en chaussures de toile, tu roules avec un pantalon de toile, et puis tu roules avec pratiquement en chemisette.
T'as du mal
à supporter. Ouais. Quand tu longes la vallée de la mort, t'as 45 degrés en température ambiante, t'as le moteur.
Le moteur, il va vous brûler les.
Le moteur, la chaleur qui remonte.
Les jambes.
Et t'as le vent de la vallée de la mort qui vient te brûler pratiquement la peau.
Par expérience, je sais que rouler en maillot, quand justement tu as du vent comme ça très chaud, ça te brûle aussi la peau. Et je préfère rouler avec un
manche longue.
Manche longue, toujours.
C'est le conseil à donner.
Il vaut mieux.
Tout en manche longue, sinon ça brûle la peau. Sinon, après, c'est la flotte. Et après, c'est le truc con, c'est avoir des billets de 1$. Tu te balades avec un billet de 10 ou 20 dollars, tu le rentres à chaque coup, tu dois rentrer ça dans une machine pour avoir quelque chose, enfin une boisson, ou prendre le métro, quelque chose comme ça, ils rentrent pas la monnaie. Donc la première fois, on s'est fait avoir de 20 dollars, et après on a fait de la monnaie.
Indispensable, comme dans la BD, la crème solaire.
Et la crème solaire.
Justement, les Frenchies, on les reconnaissait à la piscine.
La BD, et apparemment, c'est du vécu.
C'est du vécu, c'est des bonnes idées. Le stick aux lèvres, etc.
Pour terminer, vous avez préparé le voyage avant, quand même. Je suppose d'ici, en Europe, vous réservez.
Petite année avant, on a tout fait par Internet.
Bon, ce qui coûte le plus cher, c'est la location de la machine.
Location de la machine, les billets d'avion, et après derrière, les hôtels, on peut imaginer que ça coûte super cher. T'as Las Vegas dans un superbe hôtel, le Luxor, c'est du marbre partout, enfin les piscines formidables, le casino en bas, et tu paies, je crois qu'on était à 30€ la nuit.
Les gros postes, c'est ça, c'est la location de la machine, l'avion, une fois que t'es là-bas, tu manges à peu
après,
près.
Après derrière, t'arrives à sortir. L'essence 75 centimes le litre, c'est pas catastrophique. Quoi.
Ça me paraît incroyable, tu vois, les Harley, ça résiste à 45 degrés. Il n'y a pas de fuite d'huile, rien du tout.
C'est une bécane exceptionnelle.
Je suis étonné.
C'est une bécane exceptionnelle.
Vraiment, si vous le dites.
Ça a autant de succès auprès des quinquagénaires qui ne s'y connaissent pas énormément en mécanique.
Je sais pas si vous avez peut-être prévu de repartir.
On on aimerait bien repartir, mais on va économiser.
On va économiser.
On va économiser.
C'est déjà dans la tête.
Ben, une fois que vous avez économisé, vous revenez nous raconter tome 2. Tome 2, hein, tome histoire 2, de votre histoire.
Ouais, exactement. Ouais, ouais, ouais. On va devoir écrire un livre aussi.
Très bien, merci, messieurs.
Ouais. Salut.
Seems the best choice. Like a kid in the candy shop, looking at the lollipops. But I ain't no little girl, honey, got me in a whirl. Keeping my eyes tight on the brain.
Dimanche prochain, il y a du... Pro-classique. C'est le week-end prochain. Pro-classique, donc à Croix-en-Ternois.
Voilà, donc qu'est-ce que c'est que le Pro-classique ? Eh bien, c'est une association qui a été créée en 1999 par Philippe Fréon. Donc, elle offre à tous les passionnés de moto classique, sportive ou de compétition, la possibilité de vivre leur passion sur la piste en organisant donc un championnat annuel de vitesse et un autre d'endurance. Donc, ces championnats sont intégrés dans des manifestations officielles organisées par la FFM et fait courir des motos de course ou de sport en bénéficiant des meilleures conditions de sécurité actuelles. Donc l'esprit de compétition du championnat pro classique n'exclut aucunement la philosophie générale d'entraide et de camaraderie de l'association, ce qui lui permet d'intégrer tous les niveaux de pilotage. Donc il y a une petite phrase qui dit « Nul besoin d'être ancien pilote pour concourir ». Donc c'est à Croix-en-Ternois le week-end prochain, 4 et 5 octobre. Donc nous, on a une équipe féminine au niveau de l'association, hein, Myriam et Béa, qui vont participer à cette endurance de 3 heures. Donc on leur souhaite plein de choses, plein d'énergie et plein de choses pour...
Et surtout, aller les voir.
Et voilà, surtout,
les applaudir.
Oui,
et les encourager.
Les voilà.
Encourager, les applaudir.
Parce qu'il n'y a pas beaucoup d'équipes féminines, donc il faut aller encourager l'équipe féminine.
Voilà, bonjour Luc.
Bonjour l'ami,
En compagnie de Pierre.
Oui, on est très content de se retrouver derrière un micro.
L'invité mystère aujourd'hui dans
Pierre,
ah, ça me dit quelque chose.
Qui devenait aussi en BM et qui avait un petit problème technique.
Comme
d'autres. Donc Pierre, un collaborateur de Christophe de chez Légende Motors et qui est venu nous parler d'une manifestation qui se déroule cet après-midi même et où je crois il est question de gentleman. Distingué
Pierre,
c'est le Distinguished Gentleman Ride.
Oh, t'as vu l'accent un peu? C'est quoi ça? C'est un concept? Ça vient de où ce concept?
Alors ça vient d'Australie, ça existe depuis 2012. En fait, on se rassemble tous avec des motos classiques, vintage, néo-rétro, custom, préparées, un peu ce genre de belles motos. Et tous les pilotes sont habillés en gentleman.
C'est-à-dire, il faut que tu nous décrives. Après, tu vas nous le dire après.
Je vous expliquerai ça après. Et tout l'argent qui est récolté aujourd'hui est reversé à des associations qui luttent contre le cancer de la prostate et aussi maintenant contre le cancer du sein. Parce qu'il y a de plus en plus de femmes qui roulent en moto. Voilà.
Donc c'est pour la bonne cause, hein, c'est important. Donc c'est quoi, tu disais, un gentleman rider?
Le Distinguished Gentleman Ride.
C'est quoi? C'est-à-dire comment ça se caractérise?
Comment tu le reconnais?
Comment on reconnaît un gentleman? Il s'habille en costume, il s'habille en chemise, avec un petit nœud papillon, avec une petite queue de pie, on l'a dit tout à l'heure, avec un monocle, avec une moustache, surtout la moustache finement taillée.
Ça peut être facile en 2 heures, là, parce que ça commence à 14 heures.
Il faut commencer à se préparer, là.
Faire pousser la moustache, j'ai pas de produit, moi. Hein.
Non, mais j'ai du crayon noir, si tu veux.
Ah ouais, on peut faire le crayon, ça peut marcher.
Ça ira très bien.
On peut tricher.
On peut un peu tricher, ouais.
Non, moi j'avais compris aussi que l'idée c'était d'être un petit peu excentrique, quoi. C'est-à-dire de pas non plus trop se prendre au sérieux.
Surtout nous, voilà, à Lille, on essaye de pas trop se prendre au sérieux. On va faire un truc sympa, on va aller tous ensemble. Et c'est surtout ça le plus important. On passe tous une bonne journée, quoi.
Voilà, parce que le concept n'a pas été repris tel quel venant d'Australie. Il a été adapté au public français aussi.
C'est ça.
Et donc, le rendez-vous est à 14h, c'est ça?
14h chez Triomphe à Ronchin.
Voilà, donc c'est Triomphe Ronchin, donc Guillaume de chez Triomphe Ronchin, qui est à l'initiative de cette manifestation.
C'est ça.
Parce que, en fait, Triomphe, le manufacturier, a voulu s'associer donc à cette œuvre caritative et donc a demandé à ses concessionnaires de bien vouloir décliner cette manifestation dans chacune de nos régions.
Voilà. Hein ?
On va peut-être continuer à en parler tout à l'heure après ce petit morceau de musique.
d'original aujourd'hui, c'est à 14h, c'est à Triomphe Lille. C'est le premier Gentleman Rider.
De Lille ?
De Lille.
Ça s'est déjà fait
de
en
Lille.
France.
En Austra- ah, en France, c'est déjà fait. Ouais, de Lille. De Lille.
De Lille, c'est le premier.
Voilà.
Et donc, le programme cet après-midi, on se retrouve à 14h chez Triomphe Lille, c'est ça, ça. Guillaume nous accueille.
Ouais.
Et ensuite, les gentlemen distingués sont invités à se faire prendre en photo, c'est ça?
C'est ça, il y a un studio XB1204.
Ah, mais on les connaît, ça?
Vous les connaissez, ouais.
Ils ont pas illustré un...
Il y a de la moustache dans l'air aussi.
Pardon?
Il y a de la moustache dans l'air avec...
Voilà. Ils ont pas illustré un calendrier aussi, je crois?
Si, c'est ça. Ils sont venus prendre des photos, d'ailleurs, chez Légende aussi, pour illustrer dans votre calendrier...
Voilà, donc on se prend en photo, c'est ça?
Donc là,
c'est...
ils ont installé un studio mobile dans la concession. Donc les pilotes qui ont envie de se faire prendre en photo avec leur moto peuvent le faire. Ça coûte, je crois, 5 euros la photo. Et tout l'argent qui sera récolté aujourd'hui sera reversé aussi à l'association pour lutter contre le cancer.
D'accord.
Ensuite, il y a une petite balade qui est prévue pour aller de Triomphe à Ronchin jusqu'à Lille chez les gens de Motors. On s'arrête sur la Grand Place, on fait une grande photo de famille et puis on vient chez les gens et le bar qui se trouve juste à côté qui s'appelle La Chapelle, qui est aussi partenaire de cette journée, sera ouvert et puis ça va se terminer comme ça sur une bonne ambiance.
Moi Pierre, j'ai rien à faire, j'écoute les radios là, je t'écoute, ça me paraît, en plus il fait beau, j'ai bien envie d'aller à 14h donc chez Triomphe.
Mais, bah, bien sûr.
Mais est-ce que j'ai le droit, mais j'ai pas le costard, j'ai pas la moustache, j'ai rien.
C'est ouvert à tout le monde.
Voilà, donc je peux quand même venir.
Bien sûr.
C'est pas privilégié. Hein.
Non, pas du tout.
Ah, si t'as un petit gilet, une chemise blanche et...
On peut essayer de jouer le jeu quand même.
Ah, quand même. D'accord.
Et les filles, alors, comment on s'habille?
Les filles s'habillent comme des gentlemen. Voilà, en tenue de soirée. Alors, il faut aussi préciser que le gentleman fait quand même attention à sa sécurité et on roule quand même aujourd'hui tous ensemble, doucement. On n'est pas là pour faire la course, on est là pour passer une bonne journée. Donc tout le monde fait attention à sa sécurité et à celle des autres. Et on roule avec un casque, on roule avec des chaussures, avec des gants et un blouson de cuir.
Voilà, ouais.
Voilà.
Un minimum d'équipement quand même.
Ça va se terminer où cette...
Ça se termine à Lille, dans la rue Saint-André, au 59.
Hein, comme le club 59.
C'est ça, hein, à Londres.
Hein, le prêtre qui avait mis en place ce motoclub pour éviter que les...
Donc la petite tirelire pour faire les dons, elle sera donc chez Triomphe.
Elle sera chez Triomphe.
Et ensuite, on met ce qu'on veut, hein, c'est pour le cancer de la prostate, c'est et le cancer du sein.
Et ensuite, on organise un petit concours photo, les plus belles photos, la photo la plus originale. Elle sera élue par les gens sur les réseaux sociaux. Et il y a des lots qui sont à gagner. Triomphe offre des t-shirts, nous on offre un petit foulard en soie. Et puis à La Chapelle, ils vont offrir un petit cocktail.
Mais là, vous avez un site internet où on peut déjà aller voir un peu ce que c'était les gentlemen riders dans d'autres régions. C'est déjà fait, non?
C'est ça. Alors dans la région, non. Par contre, ça s'est fait à Paris.
À
vous
Paris.
Allez voir sur YouTube,
photos,
par exemple, il y a des vidéos de ce qui s'est déjà fait dans toutes les grandes villes du monde. En fait, aujourd'hui, dans toutes les grandes villes du monde, ça se fait en même temps.
Donc ça vient d'Australie, cette histoire.
Ouais.
Ouais,
c'est ça. Bah, il fait beau là-bas, alors il roule beaucoup en moto, il est très bien.
Je profite d'avoir la parole, Amish, deux minutes pour t'annoncer qu'il y a Bolzey le dimanche prochain. Notre ami, le responsable du restaurant Autour du Monde, organise donc une expo de motos anciennes, bourses, etc. Il y aura d'ailleurs un aquarelliste, je crois, qui va exposer des aquarelles. Patrice Lemaigre, il est prévu qu'il y aille. Il y aura également un stand Kikinkou avec notre ami Guy. Il y aura aussi la personne du Caïman là, qui est fan de Steve McQueen, qui va également exposer ses machines. Donc on aura des belles choses et je crois que c'est
et notre voyageur autour du monde peut-être, non?
Voilà, et il y aura donc Luc Cotterel qui doit venir normalement dans 15 jours ici. Hein,
donc il va nous raconter un peu. Peut-être donner un petit peu d'infos déjà.
Voilà, et on pourra peut-être aussi le voir à cette occasion sur la place de Bolzey.
Et les personnes possédant une moto ancienne et qui désirent participer à la fête, voilà, doivent se rapprocher de Flora et Didier. Donc tu peux donner le numéro?
Le numéro de téléphone, alors bah écoute, si tu veux, le problème c'est que le papier a beaucoup souffert parce que voilà, il a pris l'eau. Je suis motard et c'est le 03, attends, je vais trouver.
Elle va trouver.
Le 03 28 20 33 30. C'est l'association APE, Organisation Bocante.
Voilà, Pierre, on a dit l'essentiel?
Je pense.
Oui. Bon, pour la BM, ça va aller, tu crois? Problème de quoi? De batterie,
embiellage, de flotteur, de
carburateur. Ah, carburateur. C'est quel modèle? R65, c'est ça?
Ouais, c'est ça, ouais.
Ah, ils avaient ce problème-là.
Mais là, je vais retourner chez les gens, je vais prendre une Triumph.
Tu vas prendre une Triumph? C'est pire.
L'ami, je parle d'expérience.
Donc, tu seras tout à l'heure, toi?
C'est ça. Ouais. Nous, on y est à partir de 14h et on sera les premiers.
Comment ça va? S'il y a du monde, il y a un petit système d'directionnel. Enfin, je veux dire, il y a des gens qui vont vous indiquer où il faut se placer.
C'est ça, c'est ça. On va faire des petits groupes.
Parce que le parking n'est pas énorme, quand même.
Non, chez, voilà, non, on va faire un petit groupe. On a super bien organisé. Il y aura plein de monde qui sera là pour aider, aiguiller un peu les gens.
Donc, partir à 14h, vous allez rester jusqu'à 15-16h.
C'est ça, jusqu'à 16h, je pense. Le premier groupe part à 16h.
Ah, il y a plusieurs groupes alors?
On ne sait pas. En fonction du monde, s'il y a beaucoup de monde, on ne peut pas faire partir tout le monde en même temps. Donc on fera plusieurs petits groupes.
Le temps de laisser les gens faire leurs dons, déjà, prendre les photos ouais. Papeloter, parce que les motards parlent beaucoup. Hein, ils se parlent beaucoup entre eux, hein, même pour une fois, mais sans Facebook, directement. Voilà, et puis après, on prend le départ pour la balade.
C'est ça.
Très bien. Là, qu'on rajoute quelque chose?
Moi, je vous dis rendez-vous chez Triumph tout à l'heure, voilà. À 14h, on y sera.
Et moi, je veux juste vous dire que le numéro de téléphone autour du monde, vous le retrouvez sur le calendrier, page 36.
Ah, tu es formidable, Christine.
Et dimanche prochain, on va retrouver notre ami Christophe Tillemont pour le sommaire du MAG. Mmh. On va trouver notre ami Guy aussi, malheureusement par téléphone, hein, parce qu'il n'est plus dans la région,
Guy de la Fédé,
notre motard luttant. Mmh. Et nous allons rencontrer encore un autre invité, Locke.
Il y aurait aussi, à mon avis, une interview par téléphone avec Cheyenne du Loubar pour annoncer le SIDAction qui sera organisé à Le Quesnoy. Il va y avoir une très 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 grosse manifestation avec des vedettes. Certaines, on ne peut pas citer le nom encore. Et il y aura plus de 700 motards qui viendront de toute la France pour cette action.
Et ce Loubar, c'est... Où?
À Le Quesnoy.
À Le Quesnoy, voilà. Très bien.
Les motards ont du cœur.
Si vous voulez voir l'affiche de l'événement, c'est sur Facebook, qui a coûté tout bal.
Formidable, papa. Oh, c'est fantastique. Voilà, l'émission se termine. Eh bien, maintenant, c'est 1h30, c'est 12h30. Et on se retrouve dimanche prochain. Merci Pierre et bonne chance pour cette manifestation.
Merci beaucoup.
Ce premier gentleman radio dans la région. Hein, toujours. C'est ça. Voilà. On ira faire un tour, voir un peu comment ça se passe. Et s'il y a beaucoup de monde.
J'espère.
Voilà. Ils y sont bien habillés.
J'espère
très
aussi.
Bien. Merci Luc. Merci Patricia. Rien, salut, Christine, merci. Pierre Laurent, là je ne dis plus merci. Hein.
Moi je dis au revoir.
Bon dimanche à tous.
Ciao.